Puis, on m'avait demandé de partager quelque chose sur la cinquième parole de Jésus. J'avais tellement de stock que je m'étais dit qu'un jour, je ferais quelque chose de plus poussé là-dessus. Et puis, la semaine passée, je bouquine souvent dans des librairies, puis je suis tombé sur un article de revue, dans une revue de philosophie et culture. Et puis, tu sais, quand la revue fait juste de passer, puis j'ai vu « Dieu a-t-il une barbe? » Et c'est un bel article où ce que il nous parle de Dieu. Et je sentais le besoin de répondre à cet article, parce que dans les trois dernières semaines, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient le même genre d'argument qu'il y avait dans cet article. L'article portait sur le fait, bien, on va lire dans le fond le... Dieu est-il encore croyable? Le Dieu des chrétiens et du Coran qui fait alliance avec les hommes, il parle par les prophètes, s'irrite, ressent de la pitié, punit les méchants et récompense les justes dans l'au-delà. Ce Dieu-là, on le représente le plus souvent avec une barbe généreuse. Or, c'est justement son humanité qui lui fait perdre sa légitimité. Et puis, quand je suis en train de me préparer, j'ai tout de suite allumé, j'ai acheté la revue pour lire l'article, évidemment. Puis, j'ai vu que ça pouvait rentrer dans le cadre de ma prédication. Il y a plusieurs façons qu'on peut répondre à ce genre d'objection, le fait que Dieu est trop humain. Donc, je cherche à projeter, dans le fond, ma nature humaine en Dieu. Et qu'est-ce que l'article tente de faire? Il dresse premièrement dans l'article les deux principales objections historiques qu'il y a eu avec des auteurs philosophiques. Et puis, à un moment donné, il nous dit ceci. Les chercheurs spirituels, aujourd'hui, sont en quête d'une conception de Dieu plus profonde. Les spiritualités orientales influencent l'Occident et s'y développent, et cela engendre de nouvelles questions. Et les questions qui se développent sont en lien directement avec la nature, les attributs, la personne de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il est trop humain. Alors, il faut tout enlever à Dieu, ce qui pourrait être humain. La sainteté, c'est le premier qu'on flash. La Saint Dieu, Dieu qui est saint, on enlève ça. Dieu est amour. Mais comment concilier l'amour? Donc, on ne sait pas. Dieu, est-ce qu'on peut le connaître? On ne peut pas connaître Dieu. Dieu est inconnaissable, donc on ne peut pas connaître l'amour de Dieu. Fait que l'amour, on enlève ça. La justice, regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, un Dieu de justice, ils se mettent des bombes et ils se tirent partout. Donc, la justice, si c'est ça le Dieu de justice, ils disent, on enlève ça. Et comme ça, ben, ils passent en revue toute la nature de Dieu qu'ils éliminent pour se ramasser avec une espèce de Dieu, finalement, qu'ils ont donné des noms. Là. Ils appellent ça un tout vide, une espèce d'absolu, qui rime avec un vocabulaire bouddhiste qu'on a aujourd'hui occidentalisé. Il faut répondre à ça. Évidemment, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Et j'ai choisi d'y aller à travers une parole de Jésus, parce que cette parole nous dresse un portrait de l'histoire du salut, mais en même temps nous dresse un portrait de notre véritable problème. La question, peut-on connaître Dieu? Si oui, comment? Dieu est-il encore croyable et qu'a-t-il fait pour se faire connaître à nous ou se révéler à nous? C'est les questions qu'on pose. Et l'argumentation dans ce type de revue-là, c'est très, très simple. Voyez, on commence avec le Dieu des chrétiens et du Coran. Mais le paragraphe après, là, on n'entend plus parler du Coran. Parce qu'après tout, il y a juste nous autres qui dit que Dieu est amour. Il n'y a pas une autre religion sur la planète qui dit que Dieu est amour puis qui met l'emphase autant sur la sainteté de Dieu. Il n'y en a pas. Fait que finalement, on essaie de lancer ça de façon générale, mais ça se trouve être le Dieu des chrétiens, après tout, qui se trouve être attaqué dans tout ça. Et enfin, cette citation dans l'article, et ça semble être la grosse pierre d'achoppement au 20e siècle qui a fait lancer dans les universités, il faut rejeter Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de concilier ce Dieu d'amour. Et voici la réflexion. Les atrocités du 20e siècle rendent difficilement crédible l'idée d'un Dieu bon qui prend soin de ses enfants. Ça, c'est le Dieu chrétien, ça. Peut-on encore croire en la providence divine après Auschwitz, le fameux camp nazi, avec des millions de morts? Et il semble que la Deuxième Guerre mondiale, et particulièrement cet événement, l'Occident a été frappé de la nature humaine, où ce qu'elle pouvait aller. Et c'est intéressant, si vous lisez des reportages, si vous écoutez des reportages sur Auschwitz, de comment le camp a été construit. C'était pas du monde qui vivait dans la rue, là, c'était dans nos universités. Là, quel monde ont pensé à ça? Et ces questions pointent directement vers le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, mais aussi son plan pour nous. Et commençons par Auschwitz. La meilleure question que j'ai entendue sur Auschwitz vient de quelqu'un qui a été incarcéré là-bas. Et peut-être que j'ai raconté l'histoire. Si vous l'avez déjà entendue, ben vous pouvez dormir deux minutes. Sinon, je vous rafraîchis la mémoire. Simon Wiesenthal, qui est un juif qui a été justement dans le tristement célèbre camp nazi Auschwitz, qui, à deux semaines environ de la fin de la guerre, les Alliés débarquaient. Lui ne le savait pas parce qu'il était enfermé là. Et il s'est fait prendre de force et on l'a amené dans une pièce. Et dans la pièce, il y avait un jeune homme d'environ 19-20 ans qui se trouvait là. Et puis, le jeune homme qui était blessé, qui était sur le point de mourir, et qui, lui, savait que les Alliés s'en venaient et que dans pas long, il allait rencontrer son Créateur. Et Simon Wiesenthal arrive et puis le jeune homme lui dit, « Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait contre les Juifs. » Et on avait désigné Simon Wiesenthal comme représentant de la nation juive. Et Simon a eu plein de réflexions à ce moment. Puis-je être le garant de la nation juive? Puis-je pardonner pour tous ceux qui sont offensés, morts, ou pour toutes les autres? Est-ce que je peux porter le pardon pour toute la nation juive? Et puis, sans dire un mot, Simon a sorti de la pièce. Et comme de fait, deux, trois semaines après, ils ont été délivrés. Et puis, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Les fleurs de soleil », où ce qu'il raconte cet événement, « Les fleurs de soleil, pardonner l'impardonnable ». Et il a envoyé son manuscrit à plein de professeurs de morale et d'éthique dans les universités. Il a posé la question « Ai-je eu raison? » Et je vous pose la question « As-tu eu raison? » Oui ou non? Et pourquoi Jésus pourrait prendre le pardon ou pardonner l'impardonnable? Si Simon ne le peut pas, pourquoi Jésus le pourrait-il? Et quelle est la réponse biblique? On essaie de dire dans ces genres d'articles que Dieu n'est pas connaissable et donc il faut sortir Dieu de notre culture. Mais en réalité, on se trompe. Parce que c'est Dieu qui s'est révélé à nous. C'est ça la réponse biblique. C'est pas nous qui cherchons la révélation, c'est lui qui court après nous autres. Et ça, c'est l'histoire de la Bible. Et c'est de cette histoire que je veux vous entretenir pour répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, on va regarder quatre choses. J'ai nommé l'Évangile de Jean pour répondre à ça. Donc, juste quelques petites réflexions sur le contexte de l'Évangile de Jean. Ensuite de ça, on va voir Jésus qui est sur la croix, qui est conscient de ce qui est en train de se produire sur cette croix. Et l'importance de cette parole, « J'ai soif », la cinquième parole de Jésus, et l'ironie de cette parole sur la croix pour ensuite tirer des applications pour nous aujourd'hui. Et commençons par le contexte. Jean, c'est une bonne place pour commencer, parce qu'il n'y a pas un texte probablement de plus clair que Jean chapitre 1 pour nous montrer le message biblique, à savoir que c'est Dieu qui se révèle à nous. Et j'ai nommé le verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Ce qui est clair dans notre texte, surtout pour un juif à l'époque de Jésus, qui lisait ces paroles, la parole a été faite chair. Et la parole se rapporte directement au verset 1, et c'est Jésus. Cette parole qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, mais qui n'était pas le Père, mais qui était le Fils aussi, qui était Dieu, puis qui a tout créé. Cette parole-là qui était Dieu, puis avant même le commencement de l'univers, est venue sur terre et a habité. Et le terme original, c'est tabernaclé, tabernacle. Et pour un juif, c'est là où ce que Dieu rencontre son peuple. C'est la présence de Dieu sur terre. Fait que de façon claire, il dit, Dieu s'est fait chair, a pris une tente dans un homme nommé Jésus. Et en une phrase, il finit en disant, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et plus tard dans l'Évangile, il dit à Philippe, puis à Thomas, puis aux autres apôtres, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et si on ne comprend pas qui est Jésus dans le premier chapitre, on ne comprendra jamais le chapitre 19, qu'est-ce qui est en train de se passer sur la croix. Et Jean veut être extrêmement clair sur l'identité de Jésus présentement dans le texte. L'argument, c'est si je peux connaître Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à moi. Tout simplement. Est-ce que je peux connaître Dieu? La réponse est non. À moins qu'il se révèle à nous. Et plus je pense à l'Évangile de Jean, plus ça devient clair que dans le fond, il se révèle à nous. Maintenant, le point, c'est que la Bible présente un Dieu qui s'est révélé et qu'on peut connaître. Mais pas de n'importe quelle façon. Tournez dans Jean chapitre 19, ça va être l'exposé principal. Et Jean chapitre 19, dans son contexte, on va voir qu'il réfère à certaines choses, surtout au plan du salut. Et pour nous chrétiens, ça devrait être extrêmement important. Versets 28 et 29. Après cela, c'est-à-dire les paroles qui précèdent que Jésus a données sur la croix, on arrive à cette cinquième parole. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On le fixa à une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Il avait dit, « Jésus sur la croix. » Il y a certains articles qui disent que Jésus s'est fait avoir dans une espèce de complot politique. Ah, c'était pas un bon politicien, puis il a dit ce qu'il fallait pas qu'il dise, ce qu'il fallait pas qu'il soit dit, puis c'était pas politiquement correct, puis à un moment donné, Pilate puis les autres l'ont tué. Mais ici, il est marqué dans le texte, après cela, Jésus, qui savait que tout déjà était achevé. Il savait quoi? Jean dresse un portrait assez particulier de ce qui est en train de se passer sur la croix. Si on compare aux trois autres évangiles, il est particulier parce qu'il y a beaucoup moins de détails que les autres évangiles. Mais quand même, il y a des paroles intéressantes. À trois reprises, dans notre passage, il y a ces paroles au verset 14. C'était la préparation de la Pâque. Au verset 31, c'était le jour de la préparation de la Pâque. Et au verset 42, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation de la Pâque des Juifs. Quand un auteur écrit un des évangiles, il n'y a pas le choix, il faut qu'il choisisse du matériel. Et le matériel qu'il choisit va nous dire les intentions de l'auteur, mais aussi la signification de ce qui est en train de se produire ici. Et Jean, en mentionnant par trois reprises, et dans le dernier verset, tout de suite après la mort de Jésus, comme s'il ne voulait pas qu'on oublie un petit détail à cause de la préparation. Puis au début, pour être sûr qu'on comprenne, avant même que Jésus, puis en plein milieu, c'était la préparation. Ça réfère à quoi? Exode, chapitre 12, chapitre 10, 11, 12, la Pâque. Ça réfère à l'Exode. après les 10 plaies, ben 9 plaies, puis là, il vient une 10e plaie sur le peuple d'Égypte. Mais la 10e est particulière. Il y a quelque chose qui n'était pas dans les 9 autres. Les 9 autres plaies n'ont pas touché Israël. Mais la 10e, c'était pour tout le monde. Un jugement pour tout le monde. Mais en même temps, il y a une phrase qui revient dans l'Exode, dans le récit, et c'est ce qui est le plus important, c'est « Je vais voir le sang et je vais passer par-dessus. » C'est la Pâque. Et Jean veut s'assurer dans ce chapitre que ce qui est en vue, c'est un sacrifice de substitution, l'agneau qui prend la place du pécheur. Et quand il voit le sang, je vais passer par-dessus. Et Jean met l'emphase sur ce point pour nous montrer que ce qui est en train de se passer ici, c'est que Jésus prend notre place comme substitut à place qu'on meurt. C'est la substitution. La doctrine de la substitution pénale, légale, stipule que Dieu s'est donné à la personne de son Fils pour souffrir la peine et la malédiction à cause de l'humanité déchue, à cause du péché, sous peine de péché, et cela au lieu que nous mourions, qui se trouve être la conséquence du péché. Et par 3 fois, il nous rappelle ce petit détail qui pointe. Mais Jésus était-il conscient? Jésus savait que tout était accompli. La question est trop simple. Est-ce que Jésus savait? Le texte dit « Jésus savait ». Bon. Mais si on va un petit peu plus loin et on pose la question, comme Simon Wiesenthal, qu'est-ce que Simon, le juif nazi, aurait dû savoir quand le juif lui a dit « pardonne » et qu'est-ce que Jésus savait sur la croix que nous aussi on doit savoir? Il connaît la nature du péché. Prenons le psaume 51. Le psaume 51, c'est un des psaumes les plus clairs en ce qui concerne le péché. Et on lit au verset 1 pour le contexte. Au chef des cœurs, psaume de David, « Lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » David a trompé la femme, il a fait un bébé avec, il tue le mari Uri, il ment au peuple, puis Nathan s'en vient voir, puis il dit, garde, tu es cet homme qui est coupable, il va avoir une sanction. Et tout d'un coup, on arrive au verset 6, j'ai péché contre toi seul. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a péché contre Bathsheba. Il a péché contre Uri. Contre le bébé. Le bébé, il est mort. Il a péché contre le peuple. En fait, il est difficile d'imaginer une personne contre qui il n'a pas péché. Mais quand même, il arrive à ce verset et il dit, « J'ai péché contre toi seul. » Ce qui fait que le péché est le péché, c'est parce que c'est premièrement contre Dieu. Dieu est toujours la personne la plus offensée. Toujours. Ce n'est pas simplement horizontal, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait du... Non, non. C'est premièrement toujours Dieu qui est offensé. Et si on regarde dans ce récit de 2 Samuel, Dieu dit simplement, l'Éternel pardonne ton péché. 2 Samuel 2,13. Attends un peu. Tu as commis l'adultère, tu as tué quelqu'un, le bébé est mort, il y a un jugement sur le peuple, comme si tout va bien, Dieu pardonne ton péché. Alors, notre société d'aujourd'hui répond ceci. Richard Dawkins, qui est le militant athée, j'ai qualifié l'expiation, doctrine centrale du christianisme, de vicieuse, sadomasochiste et repoussante. Les spécialistes d'éthique progressiste ont du mal aujourd'hui à défendre une quelconque théorie du châtiment punitif, et encore moins celle d'un bouc émissaire, exécuter un innocent pour racheter les péchés des coupables. Mais le péché, c'est quoi? D'après notre société, le péché, c'est ça. Mais les chrétiens se focalisent d'abord et avant tout sur le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché et encore le péché. Quelle méchante petite préoccupation que de laisser dominer votre existence. Il n'a pas compris. C'est pas juste parce que je t'ai menti puis je t'ai offensé à un moment X. C'est pas juste horizontal. C'est que premièrement, ton Créateur, c'est lui qui est offensé. C'est ça le péché. Puis à ça, tu es coupable et nous sommes coupables. Et en fait, la notion de péché rentre en contradiction avec toutes les religions sur la terre qui professent qu'on est sauvé par les œuvres. Toutes. De l'athéisme, du bouddhisme, en passant par le christianisme très, très libéral, en passant par les témoins de Jéhovah, les mormons, puis toutes les autres, ça va à l'encontre de tout ce qui est dit dans notre société. Mais le psaume 51, si vous remarquez la structure du psaume, le péché de David est mentionné seulement au verset premier pour nous montrer le contexte. Mais dans tout l'exposé du chapitre 51 des psaumes, le péché de David n'est jamais rementionné. Pourquoi? Parce que l'auteur, inspiré par Dieu, veut attirer l'attention sur le fait que le péché de David, c'est un symptôme de la maladie, mais n'est pas la maladie. C'est juste quelque chose qui provient d'en quelque part. Nous faisons des péchés parce que nous sommes pécheurs. C'est notre nature profonde. Je n'ai peut-être pas fait comme Hitler puis les autres juifs, les autres nazis qui ont tué des personnes ou les 10 millions de Russes d'un goulag, mais j'ai quand même le potentiel qui est présent. Vous n'avez peut-être pas fait le meurtre ou commis l'adultère ou fait le gros mensonge impardonnable, là, tu sais, mais le potentiel est présent. Et ce potentiel fait que nous sommes tous coupables, premièrement, face à Dieu. Il nous présente un Dieu de révélation qui est saint, qui est juste et qui a mis les péchés sur lui. Lui seul peut nous pardonner parce que c'est lui qui l'est offensé. Mais quelle est l'importance de cette parole sur la croix? Malgré ces petits mots, « j'ai soif », j'aimerais vous dire que c'est la seule des sept paroles que Jésus mentionne sur la croix qui est mentionnée explicitement qu'elle accomplit quelque chose. Elle accomplit l'Écriture. Il dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Cette parole, c'est pas juste pour nous montrer dans la scène que Jean est en train de nous dépeindre un ton lugubre, là, tu sais, puis que, waouh, tu sais, il a soif, tu sais, puis là, ça. Non. Il veut attirer l'attention sur cette parole qui est ancrée dans l'Écriture et que Jésus comprend la pertinence de cette parole et de quelle Écriture qu'il s'agit. Le plus probable, psaume 69, 22, qui dit: et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Pourquoi c'est important? Don Carson dit ceci. Jean veut faire comprendre à ses lecteurs que toutes les parties de la passion de Jésus n'est pas seulement dans le plan de Dieu, prévu dans les Écritures, mais aussi que c'est une conséquence de l'obéissance parfaite de Jésus. La mort de Jésus, les motifs de l'Ancien Testament, ainsi que les prophéties de l'Ancien Testament convergent vers la réalisation du thème de la Pâque, convergent vers la mort de Jésus comme notre substitut. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours la personne qui est offensée. On peut regarder à Dieu puis poser la question si Dieu est bon. On peut se poser la question, comme ces philosophes-là qui ne sont pas capables de concilier l'amour, la bonté, la sainteté de Dieu en regardant Auschwitz. Mais quand on regarde Auschwitz, puis qu'on regarde le 11 septembre 2001, qu'on regarde Tahiti puis toutes les autres catastrophes finalement, il faut aussi se poser la question, sommes-nous bons? Et tout d'un coup, juste poser la question, la réponse chrétienne ne devient pas seulement intéressante, mais devient la meilleure réponse. Regardez Auschwitz. Est-ce que Dieu il est amour et qu'il est bon? OK. Est-ce que toi, tu es bon? Et tout d'un coup, le christianisme prend tout son sens. Je méritais d'être abandonné de mon Créateur. Je suis moralement mauvais, je ne suis pas saint, lui il l'est. Trois fois saint. Mais si le péché, à la base, c'est quelque chose de moral, pourquoi fallait qu'il souffre physiquement? L'horreur physique dans notre monde de souffrance sert d'image à comment Dieu perçoit le péché. Surtout quand on regarde la croix. 2 Timothée 1, 9 et 10. C'est un beau texte pour ça. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée, elle nous est révélée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit à l'impuissance la mort, la condamnation de notre péché et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. La souffrance existe pour nous montrer l'horreur de notre péché. Et la mort existe. Romains 5, 8 nous dit, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions pécheurs, Dieu, Jésus-Christ, est mort pour nous. » Si la mort n'existe pas, Dieu n'aurait pas démontré son amour d'une telle façon. Et c'était déterminé avant même que l'univers arrive. C'est ça que Timothée nous dit. C'est ça que Romains nous dit. C'est ça que Jean 4, 19 nous dit. C'est ça que plein de passages nous dit. La mort existe pour que dans le plan de Dieu, Christ puisse montrer son amour. Et quelle ironie! L'amour de Dieu devient clair au moment où il est mort pour nous. S'il n'y a pas la mort, la gloire de sa grâce n'éclate pas. Ça soulève des belles réflexions avant de se coucher en regardant un plafond le soir. Troisièmement, quelle profonde ironie. J'ai soif. Et pourtant, dans l'Évangile de Jean, il suffit de regarder à combien de reprises l'eau est présente. Chapitre 4, chapitre... Tu sais, ça revient souvent. Chapitre 2, 4, puis on s'en va comme ça. L'eau de vie qu'il nous promettait, l'eau de la vie éternelle qu'il promettait. Et l'ironie à la toute fin, c'est que j'ai soif. Dans la plus grande faiblesse, dans la plus grande agonie, Jésus crie « J'ai soif ». La soif pour un crucifié faisait partie du supplice. En Israël, au gros soleil, une perte de sang immense, les épaules disloquées de 18 cm environ, les clous des mains et des pieds, une personne se déshydrate assez rapidement. Et quand on amenait une branche d'hysope avec du vinaigre, c'était pas pour le soulager, parce qu'en réalité, ça faisait encore durer plus longtemps le supplice, parce qu'il s'abreuvait. En s'abreuvant, je me déshydrate moins rapidement, donc le supplice dure plus longtemps. Et l'ironie pour nous aujourd'hui, c'est qu'on cherche à projeter nos faiblesses sur Dieu. On se fait une image de Dieu et on tente de nous faire croire que ça, c'est la réalité, mais dans le fond, c'est lui qui est venu porter nos faiblesses. Quelle ironie. Il a porté nos péchés. Quelques applications. La révélation de Dieu à travers la croix de Jésus doit nous amener à être réaliste concernant notre péché. Si je peux connaître Dieu, c'est seulement parce qu'il s'est révélé. Et la façon dans laquelle il s'est révélé en dit beaucoup sur l'état de notre cœur et sur comment il nous perçoit. deux premières leçons de théologie. Dieu est Dieu. Deuxième, vous ne l'êtes pas. Les deux premières leçons de théologie. Dieu est Dieu, vous ne l'êtes pas. Quand que je me mets dans la place d'évaluer ou de projeter ou de me faire une image de Dieu avec une longue barbe, un vieux sénile sur un nuage, je suis en train de faire quoi? D'évaluer Dieu. Je suis en train de me mettre à sa place. Et Dieu nous dit, on est coupable pour ça. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Le problème, c'est que nous ne le sommes pas. La réflexion chrétienne sur la révélation de Dieu a plusieurs facettes. Et j'ai choisi d'y aller avec cette parole parce qu'elle dresse un portrait historique de ce que Jésus a accompli. Et la question du péché aujourd'hui, c'est la question qu'il faut qu'on réfléchisse en tant que chrétien, en tant qu'Église, et qu'il faut qu'on amène dans notre société. C'est l'objection principale. Ça soulève des problèmes et des défis pour notre compréhension, parce que l'amour puis le péché puis tout ça, on est complètement dépassé de ça. On l'a rejeté. Ma fille, en cinquième année, au primaire, elle vient me voir l'autre jour, elle a réalisé, et moi aussi, qu'elle est la seule qui croit en Dieu. Cinquième année. Dans mon temps, c'était en secondaire 3, 4, 5. Là, on voyait l'évolution et ces choses-là. C'était au secondaire, à la fin du secondaire. Cinquième année. Il faut qu'on soit capable d'exprimer c'est qui Jésus, c'est quoi l'Évangile, c'est quoi le péché, puis c'est qui Dieu. Et quand on a une mauvaise compréhension dans notre société de c'est qui Dieu, faut pas qu'on arrête de dire « Ouais, là, faut... » Ouais, là, la culture nous dit, puis là, il faut que je trouve des nouvelles façons plus aimables d'amener la Bible, puis de faire des bonnes prédications, puis il faut que je sois original. On n'est pas appelé à être original, on est appelé à prêcher Dieu. Les réformateurs l'avaient compris, ça. Dans les réformes, qu'est-ce qui se passait? Si on analyse les réformateurs dans le temps des réformes, nous, aujourd'hui, on fait 4-5 applications, puis il faut faire une introduction, un développement, les conclusions. Dans la conclusion, on amène des applications, puis si je peux trouver 3-4 péchés dans la vie de quelqu'un, bien, en quelque part, je risque de mettre quelques personnes de côté, parce que s'il n'y a pas de problème d'alcool ou d'autres choses, de drogue ou de pornographie, et lui, pour lui, le message, il passe par-dessus la tête. Mais si je prêche que Dieu est saint, j'ai-tu besoin de faire 18 applications? On le sait. On est appelé à prêcher encore plus Dieu. Trois points que j'aimerais mentionner. Il ne faut pas perdre de vue que la Bible renferme une grande histoire du salut et cette histoire, c'est Dieu qui court après nous. Deuxièmement, cette histoire s'enracine dans la véritable histoire. Ce n'est pas juste un récit quelconque. C'est des personnes qui ont existé. C'est des personnes qui ont prophétisé 600 ans avant puis que ça a été accompli dans l'histoire réelle. Il y a des témoins de ça, du monde qui sont morts en martyr pour ça. Ce n'est pas juste un récit et abracadabrin. C'est vrai, là. Et troisièmement, l'historicité de la Bible, la validité de la Bible, puis des personnes qui sont présentes, la nature du péché, c'est ce qui est attaqué. Et ça commence par la création. Même dans nos églises évangéliques, si on perd la création, on perd c'est quoi le péché? Si Adam n'a pas péché historiquement, mais que la mort a toujours été parce que c'est un processus de l'évolution, c'est quoi le péché? Jésus, il est mort pour quoi? Méchant clown. Mais on est prêt à faire des compromis. Mais la Bible nous appelle à ne pas faire de compromis. La véritable question, ce n'est pas qu'on a des preuves scientifiques incroyables pour la création, puis qu'à la place, ben non, c'est l'évolution, puis là, il faut que je sois capable de mixer ça. On n'en a pas de preuves. J'ai oublié, ils ont publié deux revues ce mois-ci. L'évolution est remise en cause encore une fois. Ça fait 5 fois que je compte que l'arbre généalogique de l'homme dans l'évolution, cette année, qui est changé. On n'a pas de preuves de ça. Mais ce qui est en jeu, par contre, c'est notre cœur. En tant qu'évangélique, est-ce que je suis assez à l'aise pour dire, oui, je vais être marginal, puis je vais croire à la création, parce que la Bible me le dit, mais en même temps, je sais que ça s'incruste dans l'histoire. Prenez une carte du monde de l'histoire de l'homme, là, puis je pourrais vous en amener, j'en ai, là, ça a à peu près 7000 ans. C'est ça qu'on connaît de l'humain. Fait qu'on nous dit ça dans les cégeps, dans les universités, puis le cours d'après, on nous arrive avec la théorie de l'évolution, puis on oublie ce que le cours d'avant, on a enseigné. Fait qu'en biologie, on nous dit que, voyez, la vie provient de la vie avec Louis Pasteur, il n'y a pas de génération spontanée, les bactéries existent, puis ça n'apparaît pas comme ça. La même année, en passant, que Charles Darwin publiait « Origine des espèces », puis la semaine d'après, dans nos cours de biologie, on dit, bien là, ça provient de la non-vie. En quelque part, ça s'est produit comme ça, la non-vie a engendré la vie. Ah oui, comment? On ne sait pas comment. Parce qu'il y a la vie, puis il y a la non-vie. Mais entre les deux, il n'y a rien. Mais, c'est offusquant de parler de ça. Mais si on perd ça, qui se trouve être le récit de l'histoire de la Bible pour qu'arriver à Jésus, puis que je dis, Jésus, c'est l'important, faut pas que je perde Jésus. Mais oui, mais il disait que c'était la vérité, Jésus. Jésus, il disait qu'Adam, c'était un homme qui a marché sur cette terre, puis qui a péché. Oups! Tout d'un coup, toute ma théologie, elle devient chambranlante. Pourquoi? Parce que ma culture, elle rentre dans l'Église. Des grands pasteurs aujourd'hui, là, que je nomme pas, là, qui ont écrit des livres, qu'on publie de l'autre côté, puis qui ont publié un article, là, puis que là, oups, finalement, l'évolution, il faut qu'elle s'en vienne. Mais quand on fait ça, on est en train de perdre la nature du péché. Et le péché, de façon personnelle, ça nous montre à quel point la repentance est importante. Les termes que la Bible utilise concernant le péché ne sont pas ambigus. Tu es mort dans tes péchés, tu es coupable. Il n'y a pas de mots, là, « tu as commis une petite faute. » Dieu est tellement aimant qu'il va témoigner. Non, tu es coupable. Il n'a pas réagi après 28 péchés, Dieu, dans le jardin d'Éden, le premier. C'était pas la grosse adultère avec le meurtre. Puis le... Non, il dit, je ne sais pas c'était quoi le fruit, mais il a dit, tu ne feras pas telle chose. Il l'a fait. Un Dieu juste et saint, il répond. La substitution de Jésus nous rappelle le sérieux du péché. C'est nous qui devrions être les spécialistes de la repentance. La révélation de Dieu à travers la croix de Jésus nous dit aussi, ça nous parle du caractère de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 15. Verset 4. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Et dans la suite, il y a des personnes qui viennent en jugement. Car seul, tu es saint. Et Jean, ce n'est pas la première fois qu'il utilise la sainteté. Au chapitre 4, il nous dit au chapitre 4, verset 8 d'Apocalypse, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, saint, saint ». Est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Mais ici, dans la suite du texte, c'est des personnes qui vont venir adorer à cause de la sainteté. Qu'est-ce qui différencie celui qui vient en jugement que celui qui vient adorer? C'est pour vous la sainteté. On a souvent tendance à dire que ça l'équivaut à pureté morale. Dieu est complètement pur, nous ne le sommes pas. C'est pour ça qu'il dit « car seul tu es saint ». Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire ça dans « saint, saint, saint », ça ferait un non-sens. Dieu est moral, moral, moral. Tu sais, c'est un non-sens. Il faut que ça veuille dire autre chose. Première leçon en théologie. Il est en train de dire que Dieu seul est Dieu. Il est d'un autre genre. Dieu seul est autrement que nous. Il n'est pas influencé par le péché. Les réformateurs l'ont compris, puis il ne faut pas perdre ça. Il faut prêcher Dieu, il faut ramener ça. Parce que c'est notre espérance d'entrer dans la sainteté de Dieu. Et quand la sainteté de Dieu vous éloigne? Posez-vous des questions sur votre cœur. Les théologiens qualifient la sainteté comme attribut principal de Dieu parce qu'elle entache toutes les autres. L'amour de Dieu est saint, mais sa sainteté est aimable. Sa justice est sainte. Mais, vous comprenez, ça continue comme ça. Troisièmement, la révélation de Dieu à travers la croix de Jésus nous dit, doit nous assurer de l'amour de Dieu pour nous. Le même auteur, Jean, j'ai pris tous des textes dans Jean, quasiment, de Jean. 1 Jean 4,8 nous dit ceci, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Deuxième reprise, au verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » À deux reprises, Jean nous dit, « Dieu est amour. » Il est en train de nous dire que c'est dans la nature même de Dieu de manifester son amour envers ceux qui se confient en lui. Vous ne ressentez pas son amour? Mais c'est à cause des chapitres qui précèdent le chapitre 4. Et de quoi ça parle? Du péché. Vous ne ressentez pas son amour? Repentez-vous. C'est ça le message de Jean. Dieu est amour parce que c'est sa nature même de partager son amour envers nous. Vous ne le ressentez pas? Vous n'avez pas l'assurance qu'il vous aime? Regardez à Jésus. Et si vous voyez seulement un vieux sénile avec une barbe blanche, longue, la tête des nuages en train de jouer de la harpe, j'aimerais vous dire que votre Dieu est trop petit. Peut-être qu'il vous ressemble, parce que vous avez fait un Dieu à votre image. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de l'univers. Mais la croix, par contre, elle, c'est l'image, est à l'image de votre cœur. La croix de Jésus est efficace pour nous réconcilier à cause de la personne même qui était là. C'est Dieu lui-même, le péché c'est toujours, premièrement, contre Dieu. Et lui seul pouvait donc venir pardonner. Dieu n'est pas trop petit pour se donner lui-même pour nous. C'est dans sa nature même de nous aimer. Je termine par cette phrase, « La croix lui a servi de trône, et sur cette croix la grâce coulait, comme son sang, afin que nous puissions avoir la vie. Oui, il a crié, j'ai soif. Quelle ironie, mais telle fut la gloire de la grâce de Dieu. » Minimisons pas la personne de Dieu, faisons pas de compromis. Le sérieux de notre péché, même en tant que chrétien, parce que ces textes-là parlent à des chrétiens, même l'Évangile de Jean. Le caractère de Dieu, on cherche à le diminuer, puis à un moment donné, il faut répondre à ça. Mais dans notre réponse, il ne faut pas perdre de vue le caractère de Dieu qui s'est manifesté dans l'histoire. Mais en même temps, ça nous assure qu'il nous aime. Vous n'avez pas cette assurance à regarder à Jésus, à le croire. C'est ça le message de la Bible. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier de ton amour. Les religions orientales, ils viennent, on cherche à enlever ce que tu fais, ce qui fait de toi Dieu, Seigneur. Mais en même temps, c'est toi qui se révèle à nous. Je prie pour notre Église ici au Cap-la-Madeleine, Seigneur. Il ne faut pas qu'on perde l'Évangile. Il ne faut pas qu'on perde ta personne. Il ne faut pas qu'on perde la croix. Il ne faut pas qu'on perde l'évangélisation. Il ne faut pas qu'on perde le message de l'Évangile. Dans notre évangélisation, il ne faut pas qu'on perde le péché. Il faut qu'on réussisse à le communiquer. Puis encore plus, Seigneur, parce qu'on a tous perdu les fondements dans notre société. Apprends-nous la repentance. Apprends-nous à communiquer le péché. Apprends-nous à appliquer ton pardon dans nos vies. À appliquer ta sainteté, puis ton amour, puis ta justice dans nos vies. Et merci de ce plan si merveilleux de te donner toi-même pour nous. Quelle gloire et quelle grâce, Seigneur. Merci. Amen.